rayon du râteau.
Dans la transmission du patrimoine immatériel, en fait, quand quelqu'un fait de la pêche à pied, il y a également le son, finalement, aussi, parce que certains coquillages vont faire des petits jets d'eau, donc on va entendre ces jets d'eau. D'autres crabes, par exemple, on va entendre leur carapace qui se frotte contre le rocher quand ils voient, en fait, une ombre arriver. Donc là, on peut aussi repérer certaines proies pour les populations humaines grâce au son. Également, quand le crabe stresse, il va faire comme de la petite mousse au niveau de ses mandibules. Donc ça, on l'entend aussi, en fait, le stress des animaux. Et quelqu'un qui fait de la pêche à pied aussi, à un moment donné, la mer va remonter. Donc il peut y avoir aussi des sons liés à cette remontée de la mer qui fait dire aux pêcheurs qu'il va falloir remonter vers le continent. Donc en fait, le son est très très important pour ces populations dans ce sens-là. C'est une immersion. Quand vous êtes sur une île, en fait, finalement, vous êtes bercé constamment par ce bruit de la mer. Et une fois qu'on a enlevé cette première couche, quand vous faites de la pêche à pied, en fait, tous les animaux que vous allez entendre font de bruit. Récemment, il y a des collègues qui me disaient aussi, j'ai jamais fait attention à ça, mais même les berniques, les patelles, quand elles sont sur les rochers, elles broutent et elles font du bruit. Voilà, ça c'est quelque chose auquel on est de plus en plus aussi sensible quand on va s'approcher de l'animal, parce que les animaux aussi émettent des sons donc pour communiquer, et ça en fait jusqu'à peu on s'était peu interrogé sur le son émis par un coquillage par exemple. Ce qu'aborde le projet, c'est aussi la relation des populations humaines à la nature et la relation des populations humaines à l'animal, finalement. Ramasser des coquillages, c'est pas anodin. On a une gestion d'un stock. On voit que des populations ont différentes façons d'exploiter la ressource. On voit que les populations insulaires ont tendance à ramasser ce qu'ils vont pouvoir manger. Donc il y a quand même un respect de l'animal. De plus en plus, on va s'interroger sur les ressentis de ces animaux qui peuvent être des êtres vivants, qui sont des êtres vivants à part entière, en fait. Et ça permet aussi d'interroger sur la sensibilité de ces animaux. Pêcher un coquillage pour le consommer, voilà, ça reste un geste de sacrifice. Et donc, pouvoir approcher le son, ça permet de respecter encore d'autant plus l'animal. Le monde actuel, l'arrivée des nouvelles technologies, en fait, ça a un impact énorme sur notre sujet de recherche. Il y a plusieurs anciens qui m'ont dit mon petit-fils ou ma petite-fille, elle préfère aller sur les écrans que d'aller à la pêche à pied. Et je trouve ça totalement désastreux. C'est des enfants qui n'ont plus du tout de contact avec l'environnement. Et là, tu te dis, mais plus tard, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Je reste très sceptique sur le monde du futur. Tu te dis, cette rupture en fait avec la nature, elle est énorme. Parce que du coup, cette notion de transmission, elle est intéressante. Parce que si vous êtes sur un site archéologique avec une diversité d'espèces, donc là, il y a eu de la transmission. Et là, on voit qu'une génération peut suffire à briser cette transmission. Donc ça veut dire que même sur un site archéologique, on observe peut-être la transmission sur plusieurs générations. Enfin, moi, je trouve que c'est alertant de rompre des chaînes de savoir comme ça. Et c'est sur toutes les disciplines, toutes les exploitations de ressources naturelles. Thank you.
Attention. Donc là, je vous ai mis les coquillages qui étaient mangés par les hommes préhistoriques. Les hommes et les femmes. Tout le monde mangeait ça. Donc là, en fait, il y a des choses. En fait, vous voyez, il y a des coquillages qui existent encore. Donc il y a de la bernique. Il y a d'autres coquillages.
Alors, j'en ai...
C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est?
Non.
Là, on a de la coque aussi. Donc ils mangeaient aussi. Bah, on a vu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous allez à la pêche à la palourde. On a aussi de la palourde. On a des bigorneaux. Eux, ils mangeaient les faux bigorneaux, ceux-là. Donc là, les anciens, ils appellent ça des tolecs sur l'île. Et il y a aussi d'autres coquillages. Alors j'en ai ramené un. Tiens, tu peux me tenir ça? Très fort. Alors je vous ai ramené un coquillage. Et vous allez voir, il y a les hommes préhistoriques qui ont mangé ça. Et vous allez me dire comment est-ce qu'ils... Alors vous réfléchissez, comment est-ce qu'ils auraient pu le manger? Donc là, je vous le montre. Vous voyez, ça, c'est un beau coquillage.
Moi, je l'appelais à Gada.
Un quoi?
Des choses.
Voilà, c'est un mot inventé. Hein. Donc là, je vous ai ramassé tout à l'heure sur la plage un coquillage et vous voyez, il y a de la chair à l'intérieur.
Ouais,
et celui-là, il est mangé en très très grande quantité par les hommes préhistoriques. Tout à l'heure, vous m'avez dit, mais ils n'avaient pas du feu. J'ai dit, bah si, ils utilisent le feu, ils utilisent l'eau. D'après vous, parce qu'en fait, c'est impossible de manger ce coquillage-là cru, parce qu'en fait, il est accroché à l'intérieur. Si vous ne le mettez pas d'eau, en fait, vous ne pouvez pas le manger. Donc, on sait que ces chasseurs-cueilleurs, on sait qu'ils faisaient de la cuisson et qu'ils chauffaient, en fait. Voilà. Donc, ça, on sait parce qu'il y a des coquillages qu'on ne peut pas manger sans les chauffer. Et il y a aussi des pierres brûlées à l'intérieur et il y a de la cendre dans la couche de coquillage. Et tous ces crabes-là, ils ont été mangés par les populations préhistoriques.
Ah bon?
Tout cela, t'as vu?
Mais maintenant, ils existent plus.
Ah bah si, on est allé sur la plage il n'y a pas longtemps, sur les rochers dédiques, et on les a tous trouvés.
Regarde, tu as les araignées.
Alors, il y a dans ce qu'on connaît, là, il y a les tourteaux dormeurs, il y a le crabe vert. Alors, il y en a qui s'appellent crabe enragé. Oh, pardon.
C'est quoi les crabes enragés? S'il y a des crabes qu'il ne faut pas trop t'en approcher.
Ouais. C'est celui-là?
Oui, c'est...
Il est dangereux.
Celui-là, il s'appelle crabe verruqueux parce qu'il a comme des virus sur son
corps. Ah,
sympa,
oui.
Hein.
Et crabe enragé,
crabe enragé, je crois que c'est celui-là.
Il est un peu dangereux, du coup.
Ah bah, il a des grosses pinces et il aime pas qu'on l'embête, hein. Et là, c'est l'araignée.
Quand vous l'avez pris, est-ce qu'il était enragé?
Je me suis arrangée pour qu'il soit pas enragé. Hein. Je l'ai mis sur un côté et je l'ai canalisé.
Alors, ici, on est sur... Il y a un autre site archéologique. Donc, on a parlé tout à l'heure quand on était à l'école. Un site qui date de l'époque des Gaulois. C'est bien, il y en a qui suivent. C'est parfait. Est-ce que, alors on va faire comme tout à l'heure avec Catherine à Portneuf, est-ce que vous avez une idée d'où il se trouve le site archéologique?
Là-bas,
sur les reflets ici.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que la terre elle est creusée.
Alors la terre elle est creusée, oui.
Et puis
il y a des trous. Oui, et puis
il y a des coquilles.
Eh, bien vu, c'est ça. Il y a là tout à l'heure, là pour l'instant vous pouvez rester assis, mais il y a un niveau de coquillage qu'on voit des deux côtés, là vous irez le voir tout à l'heure. Et parmi les coquillages, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des morceaux de poterie. Vous savez ce que c'est que la poterie?
Oui.
Ouais.
Non.
Vous avez fait de la poterie vous-même?
À l'école.
Et est-ce que vous savez quand est-ce que les hommes ont commencé à fabriquer des poteries? À votre avis.
Marie Van Der est archéologue, directrice de recherche au CNRS, et elle participe également au projet Terre des Îles. Elle est aujourd'hui avec les élèves de l'école primaire d'Edic, en compagnie de Catherine Dupont.
Avant, parce que ce matin, on vous a expliqué que il y avait les chasseurs-cueilleurs. Vous avez vu ce matin, donc au Mésolithique, les chasseurs-cueilleurs. Eux, ils bougent sans arrêt, ils ne faisaient pas de poterie, parce que la poterie, c'est lourd à transporter. Ça casse, ils n'en avaient pas besoin.
C'est le néolithique.
Exactement, mais au néolithique, quand les gens ont commencé à faire de l'agriculture, se sont installés et sont restés à certains endroits, et ben ils ont commencé à faire des poteries qui leur servaient à quoi?
Pour manger.
Ranger les choses.
Manger. Et aussi pour...
Pour cuisiner.
Exactement, pour faire de la cuisine. Pour aussi... stocker de la nourriture. Regardez, il y avait des pots pour mettre le miel, pour mettre la viande, etc.
Du sel,
bien sûr. Très bien. Et donc, Et donc, du coup, à l'âge du fer, à l'époque des Gaulois, comme on est un peu plus tard, on continue à faire de la poterie. La poterie, on en a fait depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui.
Hein. Oui, c'est ça.
Mais c'est ça. Le problème pour les archéologues, si vous voulez, c'est que nous, on retrouve, vous voyez bien, des objets, des traces matérielles, mais on n'a pas toute l'histoire qui va avec, puisque que ce soit au Mésolithique ou chez les Gaulois, ils n'écrivaient pas, ou très peu. Les Gaulois écrivaient très très peu, les Mésolithiques pas du tout. Donc en fait, c'est à nous de reconstituer en fait toute l'histoire. C'est un peu comme une enquête, je vous dirais, c'est un peu comme une enquête de police. Moi, j'ai toujours considéré que si j'avais pas trouvé ma voie en archéologie, je serais allée dans la police scientifique, parce que vous voyez des séries télé, peut-être, des séries policières. On part d'un indice. Et puis, on essaie de comprendre pourquoi l'objet il est là et qui est-ce qui l'a amené, etc. Et donc, du coup, on va raconter toute une histoire à partir de cet objet ou de ces traces. Nous, on fait un peu le même travail, en fait.
Au cours de ces presque 2 ans, on a accumulé en fait à la fois des témoignages, donc audio, des éléments retranscrits aussi donc par le biais de textes. On a accumulé aussi énormément de photos, on a pu rechercher les archives. Donc là, en fait, finalement, on se retrouve avec une documentation importante qui pourrait être valorisée par le biais d'une très belle exposition en mettant en valeur chacune des disciplines. La MSHB aussi, elle nous a énormément suivis au niveau communication. C'est une très très belle vitrine aussi pour cet organisme de voir comment les financements ont été utilisés aussi pour sensibiliser, aller vers le public. Moi, ce que j'espère en fait, c'est qu'on va pouvoir apprendre des choses au Hédiquet sans donner les coins de pêche. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. C'est une très très belle valorisation à la fois de la MSHB et aussi du patrimoine breton, hein. Mais aussi du patrimoine atlantique. Dans le futur du projet, c'est de pouvoir aller, j'ai parlé de l'Île-Dieu, il y a aussi l'île d'Oléron où on a des gens qui font des sensibilisations de la pêche à pied actuelle et qui connaissent les anciens. Donc là, il y a énormément à faire. Et également, il y a aussi un collègue sur Belle-Île qui a commencé à reprendre les archives. Donc voilà, je pense que ça va faire des petits un petit peu partout. On est amené à amalgamer au fur et à mesure du projet des personnes qui sont intéressées. On a eu énormément d'attraction en fait. Ce projet a beaucoup attiré les collègues. Qui fait que beaucoup viennent d'arriver, donc il va falloir trouver un moyen de poursuivre ce projet pour aller un peu plus en avant et profiter en fait d'autres disciplines. Je pense entre autres à Gérald Mouche, qui est un artiste de Belle-Île et qui fait des dessins, des croquis et même des peintures, dont certaines sont liées à l'exploitation de l'Estran. Ce qu'on avait un peu anticipé avec Christophe, c'est que le projet il évoluerait vraiment en fonction des rencontres, et c'est ce qui s'est passé.
C'était Les ressources de l'Estran en Bretagne Sud, 5e épisode. Avec Catherine Dupont, archéologue, directrice de recherche au CNRS et co-responsable du projet Terre des Îles. Marie Van Der, archéologue, directrice de recherche au CNRS et les enfants de l'école primaire d'Edic. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien de la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne.